RCF. Grosse doudoune en laine, écharpe, gants et bonnets sont de sortie. C'est comme ça que ce vendredi, on vous accueille dans l'hiver, même si les températures sont douces pour la saison. On est très heureux de partager ce magazine régional avec vous le 18-19 en Champagne, le dernier avant les vacances de Noël. Mais comme on vous l'a dit et comme on vous le répétera encore pendant les 50 prochaines minutes, vos programmes locaux sur RCF, Cœur de Champagne, RCF France Ardennes continueront de vous accompagner tout au long des deux prochaines semaines. Ce vendredi soir, il vit son dernier jour au sein de la rédaction de RCF France Ardennes, Kylian Jeannot est avec nous. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
On parlera avec vous notamment des fêtes de Noël et de ce que vous souhaitez trouver sous le sapin lundi. Ça sera à l'intérieur du journal. Et puis également les tendances météo pour ce week-end. On ne coupe pas la tradition pour cette dernière.
Et non.
Au programme ce soir, l'intelligence artificielle. Qu'aurait raconté ChatGPT en 1938? C'est la question que va nous poser Jacques Cohen et à laquelle il va tenter de répondre. Un maire qui nous parle, que l'on retrouve après deux jours d'absence. Ce soir, c'est le maire de Sedan, Didier Herbillon, qui sera notre invité. Et puis, en deuxième partie d'émission, une page un petit peu plus spirituelle, évidemment, avec le père Grégoire Roulon, qui nous parlera de la nativité des doyens de l'espace missionnaire Vignoble au diocèse de Chalon. Et puis, nous serons également avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France. Voilà pour le sommaire de cette émission. Comme tous les vendredis, on commence avec notre chroniqueur Jacques Cohen qui s'intéresse à un sujet d'actualité. Donc, professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez décidé aujourd'hui, professeur, de parler d'intelligence artificielle avant même de parler de tout ce que cela peut traduire. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est quoi en 2023-2024 même ?
Alors, l'intelligence artificielle, il faudrait la mettre au pluriel parce qu'il y a des choses extrêmement différentes. Tout d'abord, et depuis plus de 25 ans, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle algorithmique en termes savants ou déductive. C'est-à-dire que, à partir de constatations, le système joue des règles et répond des éléments en fonction de ces règles. C'est par exemple le cas pour les électrocardiogrammes depuis très très longtemps. Ça commence à être le cas aussi pour des lectures de radiologie. Ce genre de système ne pose, j'allais dire, aucun problème, si ce n'est son réglage. C'est-à-dire qu'il utilise des lois qu'on lui a prédéfinies et il les applique règle après règle. Le point faible, c'est qu'il ne sait pas tricher. Donc s'il y a une zone grise, le système va répondre qu'il ne sait pas. Plutôt, il va donner un doute. Et si on a fait le réglage pour lui dire chaque fois qu'il y a un doute, tu dis que c'est peut-être ça, les utilisateurs humains finissent par en avoir marre, si on peut dire, parce que le système voit des fractures partout, ou voit des ischémies latérales plus ou moins chroniques partout. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'il faut qu'il soit réglé correctement pour pouvoir avoir un rôle utile. Mais néanmoins, c'est très très intéressant, et on s'en sert tous les jours. Et on va s'en servir de plus en plus. Alors, la deuxième catégorie d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle auto-éducative, deep learning en anglais. C'est-à-dire qu'elle apprend de ses erreurs, mais à condition qu'on lui dise quand elle s'est trompée. Donc il reste un humain dans la boucle, ou éventuellement une autre intelligence artificielle, pour lui dire que là, elle s'est plantée, et qu'il faut donc qu'elle améliore son interprétation. C'est important parce que beaucoup de systèmes de saisie de données comportent, j'allais dire, du bruit de fond. Et il faut donc éduquer le système expert à pouvoir s'affranchir de ce bruit de fond ou savoir jusqu'où il peut se mouiller ou devoir revenir en arrière si le bruit de fond est trop important. Mais c'est un système relativement lourd parce qu'il doit apprendre lui-même. Il ressemble un peu, lui, beaucoup plus à une intelligence humaine, mais d'ailleurs, finalement, il ne fonctionne que parce qu'il y a une intelligence humaine pour exécuter la boucle de rétroaction, le feedback en anglais. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et c'est moins employé parce que pour faire cette boucle, il faut du travail, c'est pas un truc qui tourne tout seul. Et alors, la troisième catégorie que l'on voit maintenant, et qui pose un grand nombre de soucis, c'est l'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire la plus célèbre étant ChatGPT. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de pouvoir, à partir d'une base de données, extraire des éléments dedans pour donner des réponses qui sont associatives, qui sont des assemblages. Et puisqu'on peut donner à la machine une immense base de données, elle peut retrouver des trucs qui sont au-delà de ce que la mémoire humaine ou l'intelligence humaine est capable de faire en la matière. Mais il y a deux énormes défauts à l'intelligence artificielle générative. D'une part, elle est souvent réglée pour sortir de l'eau tiède, c'est-à-dire que les opinions tranchées, ce n'est pas sa façon de voir. Et d'autre part, elle est figée à sa base de données. Et on va voir dans un instant que si la base de données change, tout change. Alors, on voit déjà des choses assez inquiétantes, parce que sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'est amusé à créer un site qui pioche de l'actu et génère donc des articles, etc., etc. Et puis, il s'agissait de voir jusqu'où il inventerait des nouvelles, jusqu'où il inventerait des personnages, etc. Et je peux vous le dire tout de suite, il invente très bien Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire qu'il sait à quoi ressemble Monsieur ou Madame, etc., dans ses goûts, dans ceci, et il va en générer autant qu'il en veut, ou autant que vous en voulez. Et où ça devient un petit peu inquiétant, c'est que, comme il fait ça sur les réseaux, eh bien, il est soumis au contrôle des réseaux. Mais le contrôle des réseaux, il est généré par de l'intelligence artificielle aussi. C'est-à-dire que c'est un robot qui contrôle un robot. Et à ce moment-là, on peut se situer dans un cas de figure où les humains deviennent les vaches qui regardent passer les trains. C'est-à-dire que tout se passe entre robots, et donc, ou bien on quitte ce réseau, mais s'il est justement bien conçu pour attirer Monsieur et Madame Tout le Monde, eh bien, les gens restent comme des vaches regardant des trains, à voir passer des informations qui n'existent pas, mais qui sont tout à fait plausibles, et qui sont contrôlées comme plausibles par une autre intelligence artificielle. Donc on est dans un système extrêmement dangereux de génération d'un monde illusoire.
Est-ce que Jacques Cohen, ça veut dire qu'à terme, à très long terme, les intelligences artificielles et les robots pourraient peut-être un jour prendre le contrôle, j'allais dire ?
Là, vous êtes dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais là, on ne verra peut-être pas le temps aujourd'hui, mais Hal introduit quelque chose d'inattendu. Il a peur de la mort. Et donc, il commence à avoir des caractères humains que ces intelligences artificielles n'ont pas. Alors, seront-ils un jour capables d'en arriver là ? Je ne le sais pas. Mais le point le plus important, je vous ai dit, c'est que cette intelligence artificielle générative, elle génère des nouveautés à partir de vieilleries. C'est-à-dire que sa base de données est considérée comme juste, en noir et blanc. Et donc, il associe ce système, mais il est incapable de remise en cause. Tant qu'un document est dans la base, il est vrai. Si on le vire de la base, il pourrait ne plus l'être, mais ça, ça demande une intervention humaine qui n'existe pas, ou un ordinateur, ou une autre intelligence qui fait des changements selon le contexte, exactement comme dans 1984, où pour le ministère de la Vérité, on voit changer les affichages quand les alliances changent. Et puis on balance des documents qui disparaissent parce qu'il n'y a plus qu'une vérité du moment et qui est dictée d'en haut, et ça, une intelligence artificielle serait dictée d'en haut. Mais le grand problème, c'est au contraire que les éléments générés sont ceux qui sont figés parce qu'il est dans la base qui est supposée intangible, définitive et totalement vraie. Or, l'intelligence humaine et les connaissances humaines progressent par rupture, par changement de point de vue, par renversement de paradigme, c'est-à-dire ce que ce genre de choses est incapable de faire. Et alors je voulais donner comme exemple, je crois qu'on est dans les temps, je voulais donner comme exemple, imaginez ce qu'aurait répondu ChatGPT s'il avait été nazi, et si on était en 1938.
On vous laisse nous dire, Jacques Cohen.
Eh bien, il aurait consulté tous les documents, et à la question « est-ce que les Juifs sont nuisibles ?» ou « est-ce qu'il faut les éliminer ?» qu'est-ce qu'il aurait répondu ? Eh bien, selon le Völkischer Beobachter, comme journal de référence, et selon le protocole des sages de Sion, ils veulent gouverner le monde, ils tiennent la finance et l'état de pays étrangers. Chez nous, puisque j'ai choisi un système allemand, ils viennent d'assassiner le conseiller d'ambassade à Paris, von Rath, ce qui a conduit à une indignation de la population allemande, c'est la nuit de cristal, et en fonction de cela, il est effectivement à étudier de quelle façon il ne pourrait plus recommencer. Et la solution la plus simple pour qu'il ne recommence pas, c'est de les éliminer. Donc ce ChatGPT nazi aurait répondu cela. Parce qu'il s'appuie sur des documents et sur des consensus. Il aurait pu donner d'ailleurs un sondage disant que l'essentiel de la population allemande s'oppose aux Juifs, puisqu'il y a eu un vaste mouvement populaire suite à l'assassinat de von Rath et que la nuit de cristal l'a exprimé en détruisant je ne sais combien de synagogues. Là, il donnerait l'état de nombre, et de magasins, il donnerait l'état de nombre, témoignant de l'indignation du peuple allemand. j'ai pris un exemple en Allemagne, mais je pense que l'antisémitisme étant à l'époque est fort répandu, on aurait très bien pu lui faire donner une réponse mondiale en gommant certains aspects allemands et en montrant que les juifs étaient extrêmement dangereux sur toute la planète. Donc vous voyez, ChatGPT, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire que la base de données est juste, elle ne sera jamais remise en cause, et elle génère des choses qui la renforcent.
Jacques Cohen, après cet exemple et cet exposé, vous disiez tout à l'heure que les intelligences artificielles étaient plutôt tièdes en termes d'opinion. Vous, vous êtes plutôt opinion tranchée. Finalement, l'intelligence artificielle, pour ou contre, professeur ?
Je ne répondrai pas pour ou contre. Je vous ai dit qu'il y avait trois catégories d'intelligence artificielle. Deux sont excellentes, une est dangereuse. Et même celle-là peut être utile à condition d'en connaître les limites et de faire en sorte qu'on ne rentre pas dans un monde, comme je vous ai cité, où des robots contrôlent des robots et où les hommes sont exclus.
Merci Jacques Cohen et à très bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. On devait le retrouver mercredi à 18h20, au moment où habituellement un maire nous parle, mais l'actualité politique nationale nous avait rattrapé, avait pris le dessus. Il nous fait l'amitié de s'entretenir avec Jean-Pierre ce vendredi soir, séance rattrapage avec Didier Herbillon, le maire de Sedan, qui est en ligne.
Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors il faut dire qu'en ce moment, les planètes sont plutôt alignées pour Sedan, parce que tout récemment, on a appris, d'après les chiffres recensement démographique, que pour cette année, il y avait encore une hausse d'habitants à Sedan. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout que ça confirme l'augmentation de l'année précédente, plus de 300 habitants supplémentaires, 220 cette année encore, donc ça fait une belle augmentation sur les deux dernières années, donc on s'en félicite évidemment, parce que comme vous le savez, il n'y a de richesse que d'hommes. Et quand une ville se redéploie, comme nous le faisons actuellement, après une période de vache maigre, hein, vous savez que la démographie était en berne depuis plus de 50 ans sur Sedan, ça fait du bien de voir que aujourd'hui la tendance s'inverse. Alors certes, c'est long, parce que juger de l'augmentation démographique, c'est toujours sur le temps long que ça se fait, et on n'a pas gagné pour autant, hein, il faut rester prudent, mais c'est quand même très encourageant.
Alors il faut dire aussi que on en avait parlé, on va y revenir, il y a le château fort, mais il y a aussi des distinctions pour le maire de Sedan lui-même, puisque vous avez été désigné, élu comme maire du Grand Est pour l'année 2023.
Oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir malgré tout. C'était une distinction que je n'attendais pas, mais qui montre au fond que le travail que nous faisons avec mes équipes, eh bien, commence à être regardé et positivement apprécié. Ça veut dire aussi que la ville est regardée dans son évolution actuelle et que ça intéresse le jury qui était composé d'une douzaine de journalistes, dont des journalistes parisiens, avec des regards extérieurs. Donc ça fait plaisir, mais c'est pas le maire seul qui est récompensé. Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que seul on n'est pas grand-chose.
Alors il faut dire, on va y revenir parce que ça a été un moment très important il y a quelques mois, le fait que le château fort de Sedan a été primé comme monument préféré des Français, et ça aussi c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, c'est exceptionnel et ça l'est aussi au-delà du titre et de la distinction, ça l'est aussi en termes de retombées économiques. Le château de Sedan aujourd'hui va terminer l'année avec plus de 140 000 visiteurs sur son parcours de visite. Ce qui est tout à fait exceptionnel, hein. 140 000 payants bien sûr. Donc il y a des emplois qui se créent, il y a évidemment nos commerces qui en profitent. Bref, c'est important. Et puis ça tombe excellemment bien, l'année prochaine nous allons fêter les 600 ans du château fort. Donc vous voyez, là encore il y a une forme d'alignement des planètes qui va nous aider, ma foi, à magnifier encore plus cet événement. Donc c'est une belle opération. Et puis tout récemment, vous avez vu qu'on avait obtenu aussi de la part du législateur, c'est-à-dire de notre Parlement, la possibilité d'avoir un casino sur la ville de Sedan. Et ça aussi, pour nous, c'est quelque chose de majeur, puisque les retombées économiques sont éminemment importantes pour ce genre d'outils de développement touristique en particulier.
Alors évidemment, il faut revenir sur l'économie, vous venez d'en parler. Alors dans la zone d'Ardennes Métropole, on a en ce moment pris connaissance d'un certain nombre d'entreprises qui venaient s'installer. Et je crois que c'est le cas aussi et surtout à Sedan.
Oui, tout à fait. Intelsia avait créé au début de l'année 2023 une cinquantaine d'emplois auprès du Château Fort, d'ailleurs, dans un endroit très beau qu'on appelle le Palais des Princes. Et ils sont en train d'installer 200 postes supplémentaires en plein cœur de ville, là encore. Et pour nous, c'est aussi très, très important. On aura créé en tout, sur la ville, 400 emplois cette année. C'est évidemment majeur. Et c'est une des explications également, évidemment, de l'augmentation de la population. L'emploi, c'est la source de tout, et en particulier du développement démographique.
Alors c'est vrai qu'on va suivre ça de près, Didier Herbillon, et puis aussi l'embellissement aussi de la ville, l'aménagement. Vous avez fait des efforts depuis plusieurs années pour améliorer en particulier le centre-ville de Sedan. Ça fait aussi beaucoup pour l'accueil des personnes, pour la beauté de la commune.
Bien sûr, la reprise urbanistique de la ville, qui maintenant est en cours depuis plus d'une dizaine d'années, est bien avancée. Il y a encore à faire, hein, en particulier sur l'habitat dans le centre ancien. Mais la ville a un tout autre visage aujourd'hui. Et l'urbanisme, c'est bien créer la qualité de vie. C'est la science, au fond, de vivre bien la ville. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Et visiblement, ça fonctionne. Le centre-ville est un lieu aujourd'hui de grande convivialité, de partage pour l'ensemble des usagers, que vous soyez à pied, à vélo ou même en voiture. Tout ça fonctionne bien. C'est un centre aussi sur lequel on peut maintenant organiser de grands événements, parce qu'auparavant, le centre-ville, les places étaient occupées par des voitures. Et d'ailleurs, se déroule actuellement le marché de Noël, qui rencontre un beau succès et des commentaires très sympathiques de la part des visiteurs. Donc, tout ça participe d'un ensemble. Vous voyez, on a essayé d'appuyer un peu sur tous les leviers pour que cette ville redevienne attractive. Alors, là encore, hein, je reste prudent et modeste, parce que juger d'un renouveau, ça se fait sur au moins une petite décennie. Et le renouveau, aujourd'hui, il a trois ans, à peu près, vous voyez, mais pas encore beaucoup plus. Donc, il faut poursuivre nos efforts, il faut continuer à travailler et à rendre toujours cette ville plus jolie, plus attractive. Et on va engager, d'ailleurs, en 2024, un certain nombre de grands travaux supplémentaires.
On peut dire aussi, monsieur le maire, que même à quelques jours de Noël, bon, c'est vrai que ça coûte cher, les illuminations. Bon, peut-être que les communes sont obligées de réduire un petit peu pour faire réduire les factures d'électricité. Mais vous ne renoncez pas à ce que ces événements soient quand même l'occasion de joie, de retrouvailles, de famille. Et puis finalement, dans la ville, on voit un petit peu plus de lumière qu'avant.
Mais oui, vous savez, on a besoin, d'autant plus par les temps qui courent, où on connaît les difficultés économiques liées à l'inflation, où on connaît l'anxiété que procurent les problématiques internationales qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la problématique israélienne et palestinienne. Enfin, tout ça est anxiogène. Non, il faut vraiment donner cet esprit de Noël, rendre cet esprit de Noël à nos concitoyens et faire en sorte qu'ils oublient tout ça et qu'ils se retrouvent également en famille. Alors il faut le faire, mais il faut aussi faire attention aux deniers publics. Et c'est ainsi par exemple que cette année à Sedan, eh bien la totalité des illuminations sont en LED, donc qui coûtent beaucoup moins cher. La patinoire est une patinoire sans glace et donc artificielle et qui ne consomme pas d'énergie. Vous voyez, on s'adapte. On s'adapte, mais on conserve ce moment qui est un moment de partage, qui est un moment de convivialité, qui est un moment de rassemblement. On conserve toutes ces valeurs-là.
Eh bien, on peut vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année, Didier Herbillon. Et puis, bien sûr, que 2024 nous apporte encore de bonnes nouvelles. Et il y en aura certainement sur la démographie, sur l'implantation d'entreprises et sur la vitalité de Sedan, la cité de Turenne, à laquelle bon nombre d'Ardennais et bien au-delà sont attachés.
Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à vous.
Merci
également,
Didier Herbillon.
Et à vos auditeurs.
Alors, promesse, Didier Herbillon, on se retrouve en 2024 assez rapidement pour vos vœux de bonne année.
Pas de souci, ce sera avec grande joie.
Eh bien, nous aussi, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
18h30 sur RCF, l'heure du journal régional. Les titres de ce vendredi 22 décembre 2023, le collectif Arc-en-Ciel proposera le 31 décembre un réveillon fraternel et solidaire au centre socio-culturel de Saint-Dizier, une soirée conviviale et festive, ouverte à tous mais particulièrement aux publics en difficulté qui ne s'autorisent pas à faire la fête. Lundi sera le jour de Noël, petits et grands ont hâte de découvrir leurs cadeaux. On a interrogé quelques personnes que vous connaissez peut-être, savoir ce qu'elles espèrent découvrir au pied du sapin.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce soir, c'est le début des vacances de Noël. Noël, c'est lundi et dimanche soir, c'est le réveillon. Fête religieuse, synonyme de partage, elle est aussi souvent un moyen de chérir ceux que l'on aime en leur offrant des cadeaux. Kylian, notre stagiaire à la rédaction, est avec nous, bien évidemment. Première question, Kylian, chez vous, les cadeaux, c'est le 24 au soir ou le 25 au matin?
Eh ben, les cadeaux, c'est Team Bûche. Ça veut dire qu'on ouvre les cadeaux juste avant la bûche. Donc, ça peut être soit le 24 au soir ou le 25 au matin. Très tôt le matin.
Ah oui, vraiment très très tôt. Finalement, pendant le réveillon, en plein milieu de la nuit, on peut découvrir les cadeaux de Noël.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël cette année, Kylian ?
Eh ben, on en a discuté déjà un petit peu hier pendant midi, et c'est vrai qu'on a parlé de voyage, et un petit voyage dans les pays nordiques européens, ça me ferait très plaisir pour Noël.
Eh bien, on espère que vous serez gâtés, mais attention Kylian, vous le savez, le Père Noël ne passe que pour les enfants sages. Et la magie de Noël touche aussi les adultes. On a interrogé quelques personnes de la vie publique, savoir ce qu'elles espéraient sous le sapin, à commencer par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et des Ardennes.
J'ai commencé à installer une petite crèche à l'archevêché, et je me suis dit que ce serait bien que je la complète de quelques centons supplémentaires. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir quelques centons. Ils sont tout petits en l'occurrence, donc il faut trouver le bon format. Et puis plus largement, pour sortir un peu de moi, voilà, je porte un peu en ce moment la peine d'une famille qui se divise, qui se déchire. Et je voudrais que Noël puisse être pour eux un moment de réconciliation.
Évidemment, sur leur liste, certains distinguent souhaits professionnels et personnels, comme l'économe diocésain Olivier Delalle, qui nous dit d'abord ce qu'il souhaiterait professionnellement.
Professionnellement, j'entends, je comprends bien. Le plus beau cadeau de Noël, peut-être, ce serait un nombre important de nouveaux donateurs, un nombre important de personnes qui se disent, bah oui, effectivement, jusqu'à présent, je pensais pas trop que ça me concernait, mais là, je vais faire alors qui 10 euros, qui 50, et qui 300, 800 euros, peu importe, mais qui tout d'un coup se dit, oui, je prends ma part, et moi aussi, je participe à la vie de l'église du diocèse de Reims.
Avant de préciser ce qu'il souhaiterait sous le sapin familial.
Moi, j'aimerais recevoir, par exemple, un jeu de société qui permet de jouer en famille, parce que d'abord, moi, j'aime bien recevoir des cadeaux, donc un jeu, ça me ferait plaisir. Et puis, de pouvoir jouer en famille, je trouve que jouer en famille, c'est une façon aussi de vivre ensemble, de continuer à créer ces liens importants qui nous permettent d'être heureux de nous retrouver en famille.
Un cadeau qui permet de rassembler, c'est aussi ce que souhaite Julien Sauvage, le directeur du Cabaret Vert.
J'ai très faim au moment où je parle et mon appareil à raclette vient de lâcher, donc un appareil à raclette.
Et puis lorsque l'on parle des cadeaux de Noël, il y a ceux qui avouent ne pas avoir fait de liste, comme Arnaud Robinet, le maire de Reims.
Alors cette année, c'est la première année, je n'ai pas fait de liste, je suis assez surprise. Donc je vais laisser ma famille me faire des cadeaux qu'ils souhaitent, voir s'ils me connaissent très bien.
Ou encore ceux qui n'y ont pas tout à fait réfléchi et qui formulent des vœux plus généraux, à l'instar du député de la Marne, Xavier Albertini.
Je souhaite surtout que, comme cadeau, en tout cas comme espoir et comme surtout comme principe, les gens que j'aime et que j'apprécie soient en bonne santé. Le reste n'est que matériel et il vaut mieux travailler sur l'amour et les émotions.
Alors on espère que nos témoins trouveront amour, réconfort et joie à l'occasion de cette fête de Noël 2023, comme vous, les auditeurs de RCF. La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux, a dévoilé le montant des aides accordées à chacun des 100 sites sélectionnés en 2023. Parmi ces derniers figurent pour le département de la Marne, la halle de Cheminon, petite commune située près de Vitry-le-François. Le monument se voit octroyer la somme de 95 000 euros. À Châlons-en-Champagne, le giratoire de la Veuve reprend du service après 5 mois de travaux. Un budget de 1,6 million d'euros a été mobilisé pour ce projet. Les objectifs étaient de sécuriser depuis la route nationale 44 les accès à l'A4 et au parc d'activités voisin qui prévoit de s'étendre, de fluidifier la circulation, d'augmenter l'activité économique et de permettre une augmentation en toute sécurité du trafic routier. Les portes du centre socio-culturel de Saint-Dizier en Haute-Marne ouvriront le dimanche 31 décembre dès 19h pour le nouvel an fraternel et solidaire organisé par le collectif Arc-en-Ciel, Christopher.
Et oui Alexis, cette soirée ouverte à tous permet notamment d'éviter que les personnes isolées passent les fêtes de fin d'année seules. Autour d'un repas concocté par les bénévoles grâce aux dons de nourriture des professionnels, les personnes présentes pourront échanger autour de jeux et de la piste de danse. La soirée se veut sans alcool, hormis une coupe de champagne à minuit pour célébrer le passage à 2024, à consommer avec modération. Jusqu'à 500 personnes pourront être accueillies. Le collectif Arc-en-Ciel est toujours à la recherche d'ailleurs de bénévoles pour assurer l'installation et le montage, ainsi que la cuisine et le service du soir. Les personnes seront orientées en fonction de leurs compétences vers un poste spécifique. Les personnes souhaitant devenir bénévoles peuvent contacter l'association au 06 72 60 25 30. Des dons de nourriture de la part des professionnels sont toujours possibles.
Merci Christopher Fausten. Tout au long de l'année, les particuliers peuvent également faire des dons d'argent au collectif Arc-en-Ciel, déductibles des impôts. Week-end de Noël et donc pas de football ni de volley dans les prochains jours. L'agenda se réduit à un match de basket avec de la Pro B pour le Champagne Basket qui à 20h30 ce soir à l'Arena de Reims reçoit Gries-Souffel-Weyersheim à l'occasion de la 13e journée. Avant de refermer ce journal, place à la météo, c'est avec Kylian Janot. C'est la derdéder comme on dit Kylian. Rebonsoir.
Rebonsoir Alexis.
C'est la dernière fois que je vais vous poser cette question qui va continuer de vous hanter dans les semaines à venir. Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce week-end et pour Noël?
Eh ben alors, ce week-end, nous commencerons avec un ciel très nuageux, mais nous finirons malheureusement avec un ciel pluvieux. Samedi matin, nous retrouverons des thermomètres qui afficheront 9 degrés sur toute la Champagne-Ardenne. Dans l'après-midi, la pluie arrivera à Charleville-Mézières ainsi qu'à Vitry-le-Croisé. Les températures resteront similaires avec des thermomètres qui afficheront 10 degrés. Pour le réveillon de Noël, le temps sera pluvieux pour une grande partie de la Champagne-Ardenne. Du côté température, le thermomètre montrera jusqu'à 10 degrés pour cette matinée. Dans l'après-midi, les thermomètres afficheront 11 degrés dans les Ardennes, 12 degrés dans la Marne ainsi que dans l'Aube. Je souhaite à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices un bon réveillon de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci Kylian, un très bon réveillon de Noël à vous également, une très belle fête de Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
En alternance avec son auxiliaire, Mgr Étienne Véteux, on retrouve Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Le vendredi, il s'entretenait avec Jean-Pierre ce matin sur RCF Reims-Ardennes.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous aujourd'hui à quelques heures, on peut le dire, de Noël qui est un rendez-vous très important.
Bah, c'est plus qu'un rendez-vous très important Noël, c'est quand même un des pôles ou un des phares de notre année, je l'espère à tous. Je pense que pour beaucoup c'est un moment important où on peut enfin peut-être changer de rythme, changer un peu de préoccupation. S'occuper des siens, s'occuper des proches, on se plaint beaucoup d'avoir des cadeaux à faire et de passer beaucoup de temps dans le commerce, mais en même temps c'est toujours une marque d'attention, c'est l'occasion de penser un peu aux personnes pour lesquelles on fait ces cadeaux, d'essayer peut-être de se demander s'il n'y a pas des personnes à qui on aurait pu penser qu'on a un peu laissé tomber, c'est l'occasion d'écrire des cartes de vœux. Je sais bien que maintenant on les fait beaucoup électroniques, ce qui a des avantages pour la planète, mais ce qui est peut-être moins humain, en tout cas moins qui impacte moins. Et puis c'est le grand mystère quand même de notre foi, que Dieu vient partager notre condition humaine. Et dans un temps où nous doutons beaucoup de notre condition humaine, dans un temps où nous avons beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peurs, eh bien voilà, voir que Dieu lui-même vient la partager, il la partage à partir de ses premiers commencements, ça devrait être un moment une source d'apaisement et de renforcement dans l'engagement pour chacun d'entre nous.
Avant de revenir dans le diocèse, rappelons qu'il y a 48 heures ou un peu plus de 24 heures, vous êtes revenu de Rome, où vous étiez avec des évêques de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez rencontré le pape?
Voilà, chaque année, après l'assemblée plénière de novembre, donc en général en décembre, avec les deux vice-présidents et le secrétaire général de la conférence des évêques, nous allons rendre compte un peu des travaux de l'assemblée. En général, pour le pape, on rencontre les travaux de l'assemblée de mars et de celle de novembre. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur l'état de notre église. C'était l'occasion de remercier le Saint-Père pour sa venue à Marseille, qui est malgré tout en France. d'évoquer les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont été un des grands moments de l'année qui vient, et puis d'évoquer un peu la transformation pastorale de nos diocèses et l'effort que nous faisons pour annoncer l'Évangile malgré tout au milieu du monde tel qu'il est, dans la situation telle qu'il est. Voilà, on est toujours bien reçus. Le pape est très chaleureux, très présent dans ce genre d'entretien. Et puis nous rencontrons aussi différents collaborateurs du pape. Et puis l'ambassade de France près le Saint-Siège, qui est aussi un moment important de notre visite. Et nous avons depuis 3 ans ajouté la rencontre des séminaristes du séminaire français, mais aussi de tous les Français des Français qui travaillent à la Curie romaine. Et tout ça est toujours un bon moment aussi.
Alors Monseigneur, on va revenir à Noël, mais puisque vous évoquez Noël, la paix, la situation internationale est quand même assez compliquée. Les évêques de France avaient réalisé un certain nombre de communiqués à ce sujet sur la situation internationale.
Bon, en tout cas, on essaie de la suivre de près. Je crois que chacun d'entre nous porte très douloureusement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et la menace qui pèse sur l'État d'Israël, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza et aussi quand même un peu en Cisjordanie. Il y a là beaucoup de violence, beaucoup de brutalité. La guerre ne se fait pas avec des gants, on le sait bien, mais ce n'est pas une raison. L'humanité a développé un droit de la guerre qu'il convient de respecter et de rappeler toujours. Voilà, donc nous partageons vraiment la douleur des familles palestiniennes, en l'occurrence, aujourd'hui, qui voient des morts, des blessés, dont les maisons sont détruites. Et tout ça pour un avenir qu'on a du mal à voir se dessiner. N'oublions pas la douleur des Israéliens, en particulier des familles qui ont encore des otages. Certains ont été tués, d'autres sont encore détenus sans doute, et qui ont des raisons quand même légitimes de s'inquiéter du sort des leurs.
Alors, bien entendu, votre semaine a été occupé par ce séjour à Rome, mais il y a peut-être des événements diocésains qui se sont déroulés, ou déjà Noël que vous allez vivre dans quelques heures, à plusieurs endroits sans doute, Monseigneur.
Voilà, vous posez des questions dont vous savez la réponse, cher Jean-Pierre. Donc,
mais pas toujours.
Voilà, donc hier et aujourd'hui, nous réunis toutes les personnes qui aident le diocèse, de près ou de loin, enfin en tout cas on essaie de le faire au maximum, pour les remercier de toute l'aide apportée. Donc c'est l'occasion de présenter un petit peu à la fois un bilan de cette année, puis peut-être quelques perspectives pour l'année qui vient, et puis d'un déjeuner, d'une messe d'abord aussi, et puis d'un déjeuner de qui prépare Noël, disons, en essayant de ne pas trop anticiper sur les excès de Noël.
Et puis Noël lundi, il y a aussi donc dimanche pour la messe de minuit, traditionnellement pour vous à la cathédrale, Monseigneur.
Oui, toujours, je suis bien heureux. Donc en principe, je célébrerai le 24 décembre la messe du 4e dimanche de l'Avent avec les prêtres, avec la maison Nicolas Roland, dans laquelle il y a les prêtres âgés, des religieuses et puis toutes sortes de gens. Et puis donc j'irai célébrer à Tournes à 18h dans les Ardennes et puis à la cathédrale à minuit. Et le lendemain, comme chaque année, à la prison. Et c'est pour moi un moment très, très émouvant, une perspective aussi très, très, très émouvante. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour dire à chacun, chaque être humain, qu'il vaut la peine de qu'il vive et qu'il se convertisse toujours, même un petit peu.
Alors, si on revient à Rome, on a eu quelques images d'ailleurs sur Facebook, sur Twitter, d'une rencontre vraiment quand même très en direct avec le pape. Ça aussi, bon, vous avez l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, mais c'est quand même un moment sans doute toujours très important, ce contact direct. Enfin,
en tout cas, c'est émouvant parce que d'abord, nous sommes conscients de prendre du temps au pape qui doit porter l'Église universelle, donc il y a bien des sujets. Voilà, mais encore une fois, nous sommes aussi émus d'être, comment dire, de rencontrer le successeur de Pierre qui vient nous affermir dans la foi et nous renforcer, nous stimuler dans notre rôle, notre mission. C'est pas du tout la visite, je sais pas moi, d'un directeur de filiale qui vient rendre compte des profits réalisés ou des pertes réalisées. C'est vraiment l'occasion pour nous de lui confier un certain nombre de sujets, de recevoir ses encouragements, sa fortification, quelquefois un éclairage, et puis de les recevoir aussi de la part de ses collaborateurs.
Et puis, l'Assemblée plénière des évêques de France est au mois de mars. J'imagine que ça se prépare déjà maintenant. Les dossiers sont déjà même en cours. C'est aussi de grands rendez-vous que vous préparez avec votre équipe.
Voilà, c'est mon rôle. Et donc, nous retrouverons le 8 janvier pour ce qu'on appelle le conseil permanent. Donc, un groupe d'une dizaine de 10 évêques qui se réunissent tous les mois entre deux assemblées pour essayer de suivre les choses. Et puis, préparer l'assemblée prochaine. Mais j'espère bien profiter tranquillement des jours qui viennent autour de Noël quand même.
Monseigneur,
et je souhaite à tout un chacun de pouvoir le faire.
On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver pour vos vœux également. Ce sera donc fin décembre, début janvier. Puis vous retrouvez également le 5 janvier prochain pour votre émission régulière du vendredi. Alors on vous souhaite également, Monseigneur, une très belle fête de Noël, de très belles rencontres au cours de toutes les célébrations et toutes les visites que vous allez faire. Et on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver très bientôt sur notre antenne.
Eh bien, merci Jean-Pierre et merci à toutes les auditrices, tous les auditeurs de RCF et à tous déjà bon, joyeux et Saint Noël.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci à vous deux. Dans quelques instants, la suite et fin du 18-19 en Champagne-Ardenne pour 2023.
Le 18-19 sur RCF.
Et à quelques jours de la fête de la Nativité, le père Grégoire Houlon, doyen de l'espace missionnaire Vignoble au diocèse de Chalon, nous présente le sens spirituel de la période de Noël au micro de Loïc Marcht.
Bonjour père Grégoire.
Bonjour.
Lundi 25 décembre sera la fête de la Nativité, un jour important pour les chrétiens d'Orient et d'Occident. Elle célèbre la naissance de Jésus, fils de Vierge Marie, également connue comme la fête de Noël. Père Grégoire, pouvez-vous nous rappeler brièvement le sens spirituel de la période de Noël ? La tradition chrétienne.
La fête de Noël, c'est vraiment la fête de l'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est-à-dire ce Dieu qui a créé le monde, qui est si puissant, à la fois si lointain, se fait proche jusqu'à habiter parmi nous, prendre la chair humaine dans le sein de la Vierge Marie et devenir l'un de nous. Donc c'est la fête de la proximité de Dieu qui vient réaliser toute l'attente du peuple d'Israël depuis si longtemps qui espérait à la venue du Messie. Et donc chaque année, l'Église, dans sa liturgie, célèbre ce jour de la naissance de Jésus à Bethléem comme la venue du salut pour l'humanité. C'est une fête pleine de lumière, de paix, de joie, qui rejoint particulièrement tous les hommes et les femmes, pas seulement les chrétiens, parce que c'est une fête de paix et de à la fois familiale, une occasion aussi de retrouver les racines profondes de la vie spirituelle et de notre relation à Dieu.
Alors, vous le dites, c'est une fête de paix qui ne rassemble pas que les chrétiens. Justement, on dit souvent qu'on voit plus de personnes à la messe à Noël que le reste de l'année. D'où vient un peu cette tradition de venir à la messe de Noël ?
Tout d'abord, qu'en France, on peut dire plus généralement en Europe, Noël a marqué la culture de notre pays. Et autour de la fête de Noël se sont développées beaucoup de traditions. Il n'y a qu'à parler de la crèche et la décoration des maisons avec les sapins, autant de choses, les lumières que l'on peut mettre aussi à Noël, autant de choses qui touchent le cœur des gens et que, par tradition, on aime refaire et reproduire à cette période de Noël. Tout cela crée une atmosphère particulière de joie, de fête, qui renvoie aussi aux souvenirs d'enfance de beaucoup. Et c'est vrai que dans ce contexte, beaucoup sont rejoints lorsqu'on annonce justement le Christ, quand on parle de Jésus, beaucoup vont venir à la messe de minuit, alors qu'ils ne viennent pas les autres jours, pour retrouver cette atmosphère. Mais aussi, c'est un temps favorable justement pour accueillir ce message de paix et de salut qui, lui, demeure et éternel.
Alors justement, après Noël se prépare l'Épiphanie. Alors tout le monde connaît la tradition de la galette des rois, mais pas que. Justement, Père Grégoire, quel est le sens ? Pourquoi on enchaîne Noël et l'Épiphanie ?
Fondamentalement, c'est la suite logique. Dans le récit de la Nativité, après l'annonce aux bergers qui viennent à la crèche, vient le récit de l'adoration des mages. Ces mages venus d'Orient qui ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem, où ils ont déposé leur présent. C'est la manifestation que Dieu est venu sauver pas seulement le peuple juif qui avait cette promesse du salut, mais il est venu toute l'humanité. Et ces mages venus d'Orient sont les prémices de tous les sauvés qui viendront des quatre points de l'horizon. Et c'est le sens de cette fête de l'Épiphanie.
Les prémices de tous les sauvés, justement, quels sont un peu les messages qu'on pourrait retenir par rapport à Noël et l'Épiphanie?
Je pense qu'en premier, dans la fête de Noël, ce qu'on peut méditer le plus, c'est que Dieu se fait vraiment homme, comme tout homme, dans ce qu'il a de plus dépendant, à commencer par le petit enfant qui a besoin de parents, qui a besoin d'être nourri, qui est absolument dépendant pour sa nourriture, et qui va pleurer quand il a faim, qui a besoin de dormir. Et c'est pourtant lui qui est Dieu. Donc, il y a un message dans cet abaissement. Dieu se fait proche, mais il s'abaisse, il accepte de se laisser entourer, toucher, approcher, et surtout il accepte d'être dépendant des autres pour accomplir son salut. Et pourtant, il reste le Seigneur, et il va conduire sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais la première chose, je dirais, c'est ça, c'est cet abaissement de Dieu dans notre chair, dans notre existence tout à fait humaine. Et en ce sens-là, chacun peut se sentir vraiment rejoint, parce que Jésus est à la fois vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et puis dans l'Épiphanie, c'est un terme qui vient du grec, qui veut dire manifestation. C'est-à-dire que cette venue, elle n'est pas destinée à être cachée. À Noël, elle est cachée. Mais elle est destinée à être manifestée à tous. À travers la venue des mages, je disais que c'était ceux qui étaient loin, qui étaient atteints par cette révélation, par ce salut. Mais cette fois, Dieu se fait voir. Dieu se fait voir à tous. Dieu est accessible à tous. Le temps d'Épiphanie, c'est le temps de la manifestation. Et quand on voit comment Jésus vit, quand on accueille ses paroles, alors Dieu manifeste sa gloire et on peut croire en lui et accueillir le salut.
Alors, Père Grégoire, vous direz la messe Noël, mais justement, sans, entre guillemets, spoiler, si on peut permettre l'expression, votre homélie, quels sont un peu les messages que vous transmettez justement aux paroissiens, aux gens qui nous écoutent, par rapport à Noël, par rapport à la paix?
Alors, je ne vais pas encore tout préparer, mais d'une manière un peu spéciale cette année, mais un peu comme les autres. Noël, c'est toujours cette fête de la lumière qui vient aussi dans la nuit. Symboliquement, on célèbre Noël au moment du solstice d'hiver, où les nuits sont les plus longues, et précisément alors que le peuple marchait dans les ténèbres, dira la lecture du prophète Isaïe, s'est levée une grande lumière. C'est cette espérance, cette espérance qui est encore toute petite, comme un enfant, mais qui va se lever, qui va prendre de plus en plus de place, et qui nous permet de, précisément nous les chrétiens, d'espérer dans ce monde de ténèbres, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, je me souviens, il y a un an, on priait parce que la guerre avait commencé en Ukraine. On pensait à ces populations qui allaient passer Noël sous les bombes et dans le froid. Mais cette année, on dirait, il s'est accumulé encore beaucoup de choses. La guerre a éclaté en Terre Sainte, entre Israël et Hamas. On voit combien la tension internationale s'est accrue. Il y a eu les inondations. Il y aurait encore plus de choses. Mais la lumière vient dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, ne l'ont pas saisi. Et donc il y a cette espérance, ce chemin qui s'ouvre et dans lequel finalement tous les hommes et femmes de bonne volonté peuvent mettre leur pain.
Mettre leur pain. Justement, Père Grégoire, profitons un peu de ce temps pour dire un peu les grandes heures des messes de Noël pour ceux qui vont rejoindre dans ce bel espace missionnaire qu'est celui du vignoble. C'est votre moment.
Alors, un peu de publicité. Donc il y aura bien sûr à Épernay une messe spécialement pour les familles à l'église Notre-Dame à 18h, suivie à 21h30 d'une messe un peu plus classique, traditionnelle. À 21h30 d'une messe plus classique, traditionnelle. Dans les autres paroisses de l'espace missionnaire, il y aura une messe aussi de la nuit de Noël à 18h à Avize, une autre à 20h à Vertu, une autre à 18h à Damry, une autre à 19h à l'église de Chaveau, et une autre à 18h aussi à Passy-Grigny. Le lendemain, du jour de Noël, il y aura à Épernay une messe à 11h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul cette fois. une autre à 11h à Dormans et une autre à 10h30 en l'église Saint-Martin de Vertu.
Comme ça, chers auditeurs, vous aurez tous les horaires pour venir découvrir bel espace culinaire du vignoble et ses messes. Père Grégoire, on va s'intéresser un petit peu à vous. Vous êtes donc prêtre dans notre beau diocèse depuis 2 ans, après avoir été pendant de nombreuses années dans une communauté nouvelle. Si je vous donne une date, le 10 septembre 2023, qu'est-ce que ça vous rappelle ?
Je me souviens bien de ce 10 septembre, effectivement, le jour où lequel Monseigneur Touvet, qui était encore évêque de Châlons, m'a installé comme prêtre modérateur de l'espace missionnaire du vignoble. Donc ça a été l'occasion pour moi d'accueillir cette mission nouvelle comme un modérateur chargé d'animer l'équipe des quatre prêtres que nous formons, là, qui résident à Épernay, mais qui est déployé notre mission dans tout l'espace missionnaire. Et puis de réunir aussi les membres de toutes les paroisses ce jour-là et de prendre conscience davantage de cette unité missionnaire que nous formons.
Et si on faisait un premier bilan après 3 mois en tant que prêtre modérateur de l'espace missionnaire du vignoble, quelles sont un peu vos fiertés de votre mission ?
Alors, en tout cas, bon, je me sens bien. Hein.
C'est important.
Je me sens bien, voilà. Même si le fait de se trouver modérateur, il y a plus de responsabilités tout d'un coup qui vous viennent sur les épaules. Mais ce que je vois, c'est que la mission, voilà, n'est pas quelque chose de compliqué. Souvent, on pense qu'il y a des choses à organiser. Il y en a toujours, hein. Mais je perçois que il s'agit d'abord d'être convaincu que l'on a un trésor à transmettre et de commencer simplement à en parler. Et c'est souvent dans les choses, les rencontres les plus simples déjà, qu'on voit que cette bonne nouvelle est accueillie. Et j'ai fait déjà de très belles rencontres depuis que j'ai commencé cette mission.
Et justement, vous étiez en septembre, par l'interview, de développer cette rencontre au cœur de l'Évangile. Faites de belles rencontres. Parlez-nous un peu de l'espèce du vignoble. Qu'est-ce qui le caractérise ? On dit que c'est une berceau de champagne.
Alors c'est vrai, hein, parce que la grande majorité du territoire est plantée de vignes. Hein. Donc il y a bien sûr Épernay et les coteaux d'Épernay, toute la vallée de la Marne, hein, avec tous les villages, et puis dans l'autre direction, bien la côte des Blancs, passant par Avize jusqu'à Vertu. Bon, il y a aussi des villages dans la plaine, hein, donc. Mais essentiellement, effectivement, ce sont des zones de vignes. Alors, les caractéristiques, eh bien, c'est ça. Il y a une mentalité quand même très marquée par la production du champagne, le travail de la vigne. Ce que je remarque aussi, eh bien, à cause de cela, hein, c'est aussi un territoire qui est marqué aussi par l'attachement à la terre. Finalement, un certain bon sens. J'allais dire vignerons ou paysans, qui nous rapprochent finalement de la simplicité de l'Évangile. Et je vois qu'à chaque fois que l'on peut s'appuyer justement sur les paraboles évangéliques qui font appel à la terre, cela touche. Cela rejoint bien l'expérience de beaucoup de personnes dans cet espace missionnaire.
Donc un territoire varié, un espace missionnaire aussi qui se veut à l'écoute entre les différents villages et aussi des confréries. Vous avez des confréries sur votre espace missionnaire, notamment Saint-Vincent, qu'on fêtera mi-janvier.
Oui, alors ici, Saint-Vincent est vraiment fêté. Il y a une multiplication des fêtes de Saint-Vincent. Et puis il y aura en plus cette année ce qu'on appelle la grande Saint-Vincent, hein, la grande confrérie Saint-Vincent, qui se réunira, elle, le 13 janvier, ici à Notre-Dame, avec un grand défilé dans les rues, dans l'avenue de Champagne à Épernay, une grande messe et avec les reliques de Saint-Vincent qui sont précieusement conservées ici à Épernay.
Donc de belles perspectives pour ce territoire. Merci Père Grégoire d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Loïc.
Merci Père Grégoire Roulon et Loïc Marc depuis Épernay. Les horaires des messes de Noël dans le diocèse de Châlons sont à retrouver sur le site chalons.catholique.fr et sur le site rcf.fr. Toutes les informations évidemment qui concernent vos diocèses, c'est sur les pages internet dédiées. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne pour ce vendredi et puis pour l'année 2023. Vos programmes locaux continueront de vous accompagner tout au long des 2 prochaines semaines. Nous on se retrouvera début 2024, ça sera le lundi 8 janvier. Merci Kylian d'avoir été avec nous ces 5 dernières semaines.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Bien, c'était avec plaisir. On vous souhaite évidemment une bonne continuation et puis de très bonnes fêtes de fin d'année. En particulier, un joyeux Noël, Kylian.
Joyeux Noël à vous aussi.
Et puis une très bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs. Encore une fois, un joyeux Noël. Déjà, en avance, nos meilleurs vœux pour 2024. Encore une fois, d'ici là, RCF vous accompagne. C'était Thierry Delis qui était à la mise en onde pour ce dernier numéro de l'année 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aimez. On pense bien fort à vous. Merci pour votre fidélité et à bientôt.